La marche du monde.
Le Brésil est l'unique pays d'Amérique du Sud n'ayant jamais jugé les crimes de sa dictature en raison d'une loi d'amnistie votée en 1979. Mais avec la création de la Commission nationale de la vérité pour enquêter sur les violations des droits de l'homme, le Brésil affronte les années noires de son histoire.
Le rapport de la Commission nationale de la vérité démontre...
Le rapport de la CNV démontre que durant le régime d'exception au Brésil de 1964 à 1985, il y a eu une pratique systématique en tant que politique d'État de la torture, de la disparition et de la mort d'opposants politiques. Le rapport de la CNV apporte cette conclusion. Ce n'était pas le fruit d'excès de tel ou tel militaire, mais c'était bien une pratique de l'État.
Viviane Ishak présente les conclusions du rapport de la Commission brésilienne de la vérité. Nous sommes le 10 décembre 2014. C'est alors que la CNV confirme et révèle les circonstances de la mort et disparition de 434 victimes politiques du régime militaire brésilien entre 1964 et 1985 en qualifiant les faits de tragédies humaines injustifiables. Mais l'armée brésilienne n'a toujours pas reconnu explicitement avoir utilisé la torture contre des militaires, contre des syndicalistes, des paysans, des églises chrétiennes, des indigènes, des homosexuels, des étudiants ou des personnels des universités. 20 000 cas de torture recensés. La CNV a officiellement entendu leur voix et nous autorise à vous faire entendre leurs témoignages sur RFI.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Retour sur le travail de la Commission nationale de la vérité au Brésil avec nos invités historiens, Bruno Grupo, bonjour.
Bonjour Valérie.
Et Angelica Müller, bonjour.
Bonjour Valérie.
Bonjour à tous les deux. Alors Angelica Müller, merci d'être venue jusqu'à nous. À Paris, vous êtes l'une des coordinatrices des travaux de la CNV. Comment avez-vous vécu cette expérience unique ?
En tant que chercheuse dans des domaines du mouvement étudiant au Brésil, plus de 10 ans que je travaille ça, c'était une chance d'y faire partie d'une équipe tellement grande de la CNV. Plus de 200 chercheurs ont participé. Et donc, je m'y occupais surtout sur l'univers académique des universités, des graves violations à professeurs, fonctionnaires et des étudiants. Donc, à peu près autour des 1000 professeurs universitaires étaient touchés d'une manière ou d'autre à cause de la dictature. C'est dans ses carrières, quelques en morts, pas beaucoup. C'est le cas de la professeure de l'université de São Paulo, Ana Rosa Kuczynski. De la même manière, pas mal des étudiants qui étaient enlevés des universités privées et publiques au Brésil, pas mal des étudiants qui ont souffert la torture et aussi étaient morts. C'est le cas du président de la UNE, la Union nationale des étudiants, Onestino Guimarães, qui est mis en prison en 73 et après ça, il a disparu. Jusqu'à aujourd'hui, il est un disparu politique.
Angelica Müller, combien de mois de travail, combien de personnes auditionnées ?
Alors, la CNV, elle était en travail vers 2 ans, à peu près. Une autre chose qui est intéressante, c'est une commission d'État. Et la société s'est mobilisée. Ça a créé un tour des 100 commissions. Des commissions pour région, pour État, pour profession, comme l'Ordre des avocats du Brésil, comme la commission des journalistes. Donc, la CNV a fait plus de 1100 témoignages. Elle a fait 80 audiences publiques. Elle fait 11 inspections dans les établissements publics avec les victimes pour reconnaître les endroits de torture. Et aussi 4 exhumations des corps, incluse l'exhumation du corps de l'ancien président Juscelino Kubitschek. Accords internationaux avec Argentine, Uruguay, Paraguay, Chili, États-Unis et Allemagne. Et aussi a créé un réseau sur Internet, notamment sur les Facebook, qu'il y avait plus de 150 000 à regarder les travaux de la Commission.
Alors Bruno Gropo, entre les élections au Brésil, la Coupe du Monde de football, j'ai l'impression que les travaux de la Commission Vérité sont passés relativement inaperçus, en tout cas au niveau international. Où en sont les Brésiliens avec leur passé? Comment l'opinion publique brésilienne considère-t-elle cette période 64-85?
Mais au fond, le Brésil a évité, jusqu'à une période récente, de se confronter réellement avec la période de la dictature. Contrairement à d'autres pays où on a créé des commissions de la vérité immédiatement après la fin des dictatures, par exemple au Chili ou en Argentine, là, la création de la commission vient 25 ans après la fin de la dictature. Donc, il y a, pour ainsi dire, une attitude assez divisée de la société brésilienne, il me semble, à cet égard. Et aussi des pouvoirs publics qui ont reconnu la responsabilité de l'État dans les crimes de la dictature, qui ont procédé à une politique des réparations financières, morales, etc. Et en même temps, qui ont garanti jusqu'à présent l'impunité absolue de tous les responsables. Donc, une sorte de schizophrénie nationale.
Alors, rappelons que le coup d'État militaire, c'est avril 1964. Le président João Goulart de Jango est renversé par le général Branco et une partie de l'armée, du monde économique, de l'Église soutient le coup d'État car Jango est considéré par eux comme celui qui va faire basculer le Brésil dans le communisme. Bruno Gropo, est-ce que c'est pour cette raison que les États-Unis sont impliqués?
Les États-Unis ont appuyé pratiquement toutes les dictatures militaires qui se sont installées à partir des années 60 parce qu'ils étaient particulièrement préoccupés après la révolution cubaine que cela ne se reproduise pas ailleurs. Et donc, tout en se présentant comme les champions de la démocratie au niveau mondial, ils ont contribué, appuyé le renversement des gouvernements démocratiquement élus comme au Brésil ou comme au Chili. Mais c'est une politique générale qui est liée au climat de la guerre froide et en particulier à l'impact de la révolution cubaine en Amérique latine.
Et tandis que la dictature militaire s'installe lors de l'été 64, Brigitte Bardot, la star du cinéma français, enregistre un album au Brésil en portugais.
Maria ninguém e Maria e Maria. Se eu não sou João de nada, Maria, que minha é Maria ninguém. Maria ninguém, e Maria como as outras também. Só que tem que dar melhor do que muita Maria que há por aí. Maria está fria.
Douceur de vivre dans le Brésil des années 60 et pourtant la répression va sévir dès 68 face aux révoltes étudiantes et à la lutte armée et s'installer. C'est ainsi que les différents régimes militaires vont mettre en œuvre une répression d'État sur laquelle la Commission nationale de la vérité a enquêté. Viviane Ishak.
La loi qui a créé la Commission nationale de la vérité.
La loi qui a créé la Commission nationale de la vérité stipule un objectif très clair. L'enquête des cas graves de violation des droits de l'homme. L'éclaircissement des circonstances des morts et des disparitions survenues durant la dictature militaire.
La même loi stipule a entrega à la société brésilienne du relatório.
Cette même loi stipule le don à la société brésilienne des recherches et des travaux réalisés.
Une commission vérité dont la création est annoncée en 2011 avec émotion par la présidente Dilma Rousseff, ancienne guérillera d'extrême gauche, elle-même torturée et emprisonnée sous la dictature.
La vérité sur notre passé est fondamentale pour que les événements qui ont entaché notre histoire ne se reproduisent plus jamais. Nous ne pouvons laisser le Brésil être corrompu par le silence. C'est un moment historique. L'heure est venue.
Esta é a nossa hora.
Mais Dilma n'est pas l'unique présidente du Brésil à demander officiellement à son pays d'affronter son passé, ce qui est très important pour Pedro Dallari. Il est coordinateur de la CNV et il est le fils de Dalmo Dallari, grand défenseur des droits de l'homme dans les années 70, les années les plus dures.
Durant l'acte d'installation de la Commission nationale de la vérité, en mai 2012, tous les présidents de la République étaient présents. Au-delà de la présidente Dilma Rousseff, qui a approuvé la loi, il y avait le président Lula, le président Fernando Henrique Cardoso, le président Fernando Collor et le président José Sarney, justement pour symboliser l'engagement de l'État brésilien à travers différents courants politiques, représentés par les différents présidents de la République, dans la recherche de la vérité, de la mémoire et pour la promotion de la justice.
Le président Lula a soutenu sa protégée, la présidente Dilma. Lula est venu témoigner devant la Commission nationale de la vérité.
En 80, ils commettaient la burrice de me prendre avec 17 jours de grève.
En 1980, ils ont commis la bêtise de m'emprisonner après 17 jours de grève. Qu'est-ce qui s'est produit quand ils m'ont emprisonné ? Ce fut une motivation supplémentaire pour continuer la grève. Les femmes ont fait une manifestation très belle à São Bernardo do Campo. Après, il y a eu ce 1er mai historique. Et la grève a duré encore presque 30 jours de plus. J'ai été bien traité. Quand ils nous ont emprisonnés, c'était une matinée durant laquelle on s'est bien fait avoir. Comme tout le monde, pour la première fois, j'avais peur. Et là, à la radio, j'ai entendu l'information sur la station Bandeirante qui disait « Le président du syndicat vient d'être fait prisonnier à São Bernardo ». Ouf, j'étais sauvé.
La peur exprimée par le président Lula devant la CNV, il est à l'époque président du syndicat et rassemblait déjà des foules. Lula arrêté en 1980 par les militaires au Brésil, mais arrêté officiellement. Pourquoi est-il tellement soulagé d'entendre justement qu'il a été arrêté à la radio ?
Fin des années 70, on va dire entre guillemets qu'il s'était déjà un peu plus calme. Donc Lula, c'était déjà un personnage très connu. Il s'était pour ça dire si ça partit aux journaux, dans la télé, voilà, les présidents de syndicats est en prison. C'était fait qu'il était en prison et qu'il peut pas disparaître.
Voilà, c'était une garantie de
c'était
sa sécurité en quelque sorte.
La garantie. Et ça passait avec aussi d'autres personnages connus. Pas avec des gens qui étaient pas connus et surtout quand ils étaient en prison clandestine.
Parce qu'il faut bien comprendre, Bruno Groppo, que le fonctionnement de la répression, c'est qu'elle arrête, elle torture, mais en secret.
Oui, il y a un certain nombre de disparus dans le cas du Brésil, un chiffre bien moindre que celui, évidemment, de l'Argentine ou du Chili, mais ça a été l'une des modalités de la répression. Sinon, ce qui frappe dans le cas du Brésil, c'est le fait que... On a recours systématiquement à la torture, mais après, on fait passer les subversifs, etc., devant un tribunal militaire. On les condamne à des peines de prison, etc. Mais c'est-à-dire, on essaye de donner une sorte de cadre semi-légal à tout cela, tout en prenant comme valable les confessions extorquées sous la torture.
Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, tout est consigné et cela a produit des archives considérables. Écoutez Jaime Antunes da Silva, le directeur des archives nationales.
Au Brésil...
Le Brésil se distingue clairement des autres pays du cône sud qui ont fait l'expérience de régimes dictatoriaux, puisque la dictature du Brésil a été la dictature la plus documentée de l'Amérique latine. Les archives nationales réunissent plus de 20 millions de pages générées par les différents organes du système national d'information et de contre-information du régime militaire. Tout ce matériel a été traité et informatisé dans son intégralité afin qu'il puisse servir comme source fondamentale de recherche pour le comptage des atteintes aux droits de l'homme commises durant les décennies 60, 70 et 80 par le régime militaire instauré dans notre pays.
20 millions de pages, Bruno Gruppo, c'est bien une spécificité de la dictature brésilienne, cette immense documentation.
Oui, parce que d'autres dictatures ont agi dans la plupart des cas de manière clandestine, de manière à laisser le moins possible des traces, et en particulier des traces écrites. Par contre, dans le cas brésilien, du fait de cette volonté de donner une sorte de cadre légal, entre guillemets, à la répression, en utilisant les tribunaux militaires, etc., on a laissé derrière soi tout un certain nombre de dossiers qui ont pu être utilisés, une fois qu'est arrivée la loi d'amnistie, pour remettre en cause les condamnations qui avaient été prononcées, mais qui ont pu être photocopiées, etc., et qui constituent un fonds d'archives qui n'a pas d'équivalent dans d'autres dictatures.
Angelika Müller, cela fait partie justement des documents à partir desquels la CNV a travaillé ce corpus d'archives.
Exactement, et juste pour dire, c'est 20 millions des pages, c'est juste un petit parti qui s'était ouvert, puisque les militaires ont créé vraiment un système qui s'appelait Système National d'Information. Pas que dans les ministères militaires, mais aussi dans les ministères civils. Je vais prendre les cas du ministère de l'Éducation, qui a créé une division des sécurités et informations. Et à chaque université publique, ils ont créé une agence des sécurités et informations pour produire des infos sur les personnels, professeurs, fonctionnaires, universités. Vous pouvez imaginer, c'était plus des 35 universités qu'il y avait des agences à créer des infos à tout moment. Ça, c'est pour exemple un des archives qui disparut. Donc, c'est vrai qu'on a vraiment, par rapport à des autres dictatures, vraiment beaucoup de documents, mais c'est pas du tout... Tout l'ensemble, c'est un petit parti de qu'est-ce qui se passait. Hein.
Angelika, le travail de la commission a donc été réalisé à partir des archives, mais aussi des témoignages. Il fallait auditionner pour élucider, pour prouver, pour confirmer, mais aussi révéler les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits. Viviane Ischak, sur le cas du député Rubens Paiva.
Enfin, la Commission nationale de la vérité se débroussa sur le cas du député Rubens Paiva.
La Commission nationale de la vérité s'est penchée sur le cas de Rubens Paiva et a réussi à réunir des documents, des dépositions et des témoignages qui ont réussi à élucider ce qui est réellement arrivé au député Rubens Paiva. Au-delà de la preuve que Rubens Paiva est bien rentré dans les locaux de l'armée de terre dans la nuit du 20 janvier 1971, le témoignage d'un ancien agent atteste que Rubens Paiva a été torturé par l'agent Antonio Hughes et qu'à l'occasion de son emprisonnement et de sa torture dans le département d'opérations internes de l'armée de terre, le fameux DOI, le chef de l'époque, le général de réserve Antonio Bellam, encore vivant aujourd'hui, était également présent. Pourtant, Antonio Bellam a fait une déposition devant la CNV. Il a nié avoir été présent et il a nié avoir été informé de la torture du député. Grâce à ces recherches, la CNV peut maintenant apporter la preuve par des documents de la disparition de Rubens Paiva et de sa mort dans les dépendances de l'armée de terre à Rio de Janeiro.
Les voix des témoins de la Commission brésilienne de la vérité sont dans la marche du monde. Écoutez-les juste après les infos sur RFI.
Thank you.
marche du monde.
J'accuse les présidents de la République,
Humberto de Alencar Castelo Branco,
Costa e Silva,
Garrastazu Médici,
Ernesto Geisel
et João Batista Figueiredo.
Todos.
Tous, sans exception, ont été responsables et de connivence avec la torture.
Finalement,
j'accuse le régime dictatorial implanté au Brésil en 1964
d'avoir fait de la torture une politique d'État.
Le j'accuse hein, de Dulce Pandolfi lors de son audition par la CNV, la Commission nationale de la vérité au Brésil. Dulce Pandolfi, ancienne guérillera de l'ALN, l'Action de Libération Nationale, créée en 1968 au Brésil, en réaction à la dictature militaire. Depuis le début de cette émission, nous avons évoqué la façon dont la Commission a travaillé pour établir la responsabilité de l'État brésilien dans les crimes perpétrés par les différents régimes militaires de 1964 à 1985, puisqu'il a été clairement établi que tous les présidents concernés avaient connaissance de l'utilisation de la détention arbitraire, de la torture et de l'assassinat par l'armée. Néanmoins, la loi d'amnistie votée en 79 est toujours en vigueur au Brésil et si elle a permis le retour des exilés, elle protège aussi les tortionnaires. Angélica Müller, vous qui avez été l'une des coordinatrices de la CNV, quelle est la position de la CNV par rapport à cette loi d'amnistie ?
Voilà, c'est toujours une interprétation juridique. Les membres des CNV, ils sont d'accord que les graves violations des droits humains sont des crimes imprescriptibles. Donc, c'est une question d'interprétation. Il y a aussi des enjeux politiques. La conclusion de la CNV, elle fournit les noms des 400 personnes engagées depuis les présidents militaires, comme on a écouté Dulce Pandolfi à dire, à des agents qui ont fait la torture et même des civils qui ont été impliqués dans les tortures. Et aujourd'hui, il y a à peu près 100 personnes qui sont encore vivantes qui peuvent être à jugement. Par contre, la Cour suprême fédérale juridique, il y a une autre interprétation. L'espoir, c'était qu'avec les rapports de la CNV, ça puisse vraiment, la Cour suprême, changer ces questions de la loi de l'amnistie.
Bruno Gropot, la volonté politique de Dilma Rousseff a été que cette CNV existe. Est-ce que néanmoins, cette volonté politique se heurte et s'arrête à la loi d'amnistie ?
Le problème est qu'au fond, jusqu'ici, il y a eu une sorte d'accord général d'une majorité de la société pour ne pas remettre en cause la loi. Il y a des secteurs qui se sont battus et continuent de se battre pour obtenir l'ouverture des procès, etc. Mais jusqu'ici, ils ont été minoritaires. Maintenant, il faudra voir quelles conséquences va tirer la présidente, son gouvernement, du travail de la Commission, si ce travail doit rester comme une sorte de monument sans conséquence, ou bien s'il va produire des changements. Mais là, on entre dans la politique. Et au fond, il faut voir qu'il y a des obstacles sur ce chemin qui sont tout à fait considérables. Et le premier de ces obstacles est l'armée. Les forces armées, en fin de compte, n'admettent pas la remise en cause de la loi d'amnistie. Donc, toute initiative dans ce domaine signifie entrer en collision avec les forces armées.
Je vous invite à Sra. Celina Romeu pour assumir ici. Je ne sais pas si Inês pudesse vir junto, eu acho que seria. Você não quer vir também, né?
Nous sommes le 25 mars 2014. José Carlos Dias, commissaire de la CNV, rend hommage à Inès Étienne Romeu. Elle est la seule survivante de la maison de la mort de Petrópolis. Inès a été torturée et violée pendant 3 mois et elle a réussi à sortir en convainquant ses tortionnaires qu'elle allait travailler pour eux. C'est une audience exceptionnelle à laquelle vous avez assisté. Angélica Müller.
Oui, exactement, j'étais là ce jour. Inès, elle était beaucoup touchée pour la torture, donc elle parle pas beaucoup. Mais Inès, elle a un grand mémoire pour ses souvenirs de tout ce qui s'est passé, surtout de l'endroit et de ses tortionnaires.
Quel danger Inès Étienne Roméo représentait pour la dictature militaire?
Elle était un jeune étudiant qui a participé à un courant politique des gauches révolutionnaires, des luttes armées. Elle était à distribuer des affiches contre les régimes et des choses comme ça. Donc, à cause de ça, c'était vraiment une personne, entre guillemets, subversive pour les régimes.
Inès Étienne Roméo est décédée en 2014 et lors de l'audience qui lui a été consacrée à la CNV, c'est donc la sœur d'Inès Étienne Roméo qui a pris la parole car à cause de ses séquelles, Inès n'a pu témoigner en son nom propre.
Eu me lembro perfeitamente do dia 5 de maio. De 1971, quand Inès disparaît.
Je me souviens parfaitement du 5 mai 1971, quand Inès a disparu.
Minha mãe e eu.
Nous sommes allés à São Paulo pour la rechercher, ma mère et moi.
Procurando Inês.
D'autres membres de la famille se sont dispersés afin de la chercher.
Da repressão em Belo Horizonte.
Un bureaucrate d'une agence de la répression nous informa
de 1971,
en août 1971 qu'Inès était morte.
Passamos a procurar, então,
nous avons donc commencé à chercher son corps, jusqu'à ce qu'un coup de téléphone de l'avocat Bandeira de Melo me garantit qu'Inès est vivante, mais il ne sait pas où. La perplexité face au conflit d'informations est une souffrance en plus. Parce que si vous savez que la personne est morte, vous êtes en deuil. Si vous êtes dans le doute, c'est terrifiant.
No dia 11 de agosto de 1971, estávamos em Belo Horizonte.
Le 11 août 1971, nous étions à Belo Horizonte.
À noite, o Clayton, grande amigo, me ligou.
Le soir, Clayton, un très grand ami, m'appela en me disant qu'Inès était chez Geralda.
Então, quando eu cheguei com o Dr. Bandeira de Melo.
Donc quand je suis arrivée avec l'avocat Bandeira de Melo et le médecin, la situation devint très claire. Et sous les conseils de Bandeira de Melo, et avec notre accord, Inès fut internée à la clinique Pinel. Je suis allée avec elle en tant qu'accompagnatrice. Après ça, la famille a décidé de transférer Inès de la clinique Pinel, où elle n'était réellement pas en sécurité, à la clinique Santa Maria.
Ela ficou lá até novembro do mesmo ano, quando finalmente.
Elle est restée là-bas jusqu'en novembre de la même année, quand finalement son emprisonnement a été officialisé, ce qui lui a sauvé la vie.
Público e notório que ela estava.
Parce que là, c'est devenu public et notoire qu'elle était sous la tutelle de l'État.
O régime não podia mais matá-la sem se denunciar.
Donc le régime ne pouvait plus la tuer sans se dénoncer. Inès est restée emprisonnée jusqu'en août 1978. Elle a gardé en mémoire des faits, des noms, des personnes qu'elle a vues principalement dans la maison de la mort. C'est un symbole, cette maison de la mort, de ce que la dictature peut faire.
À la recherche de son frère disparu, Sergio Suarez Ferreira découvre que Inès est la dernière personne à avoir vu son frère vivant dans la maison de Petropolis, la maison de la mort. C'est ce qu'il découvre en lisant le rapport d'Amnesty International de 1974.
J'ai rencontré Inès seulement en 1978, en juillet, grâce à un contact que j'ai établi avec sa sœur, Lucia Romeo. Nous sommes allés à Bangu pour lui rendre visite. Inès était condamnée à la prison à perpétuité, la seule femme dans l'histoire du Brésil condamnée à la prison à perpétuité. C'est au cours de mes visites en 1978 qu'Inès m'a dit la chose suivante. Je crois que je sais comment retrouver cette maison à Petrópolis.
Então a Inês resolve convocar os familiares desaparecidos políticos envolvidos nessa casa.
Inês decide donc de convoquer les membres des familles de disparus politiques concernés par cette maison.
Inclusive a viúva do Rubens Paiva.
Nous décidons de les faire venir à Rio de Janeiro, notamment la veuve de Rubens Paiva. À l'époque, personne n'y croyait, cela ressemblait à du cinéma américain. Nous avons réuni toute la presse, les TV Globo, Bandeiras, la radio ATB. Nous avions fixé le point de rendez-vous à l'Assemblée législative et nous sommes sortis en formant une caravane, qualifiée par la suite par l'avocat de Lauders de « caravane notoire » durant le procès qu'Inès a intenté contre le propriétaire de la maison.
Il
y a des gens qui ont dit « Inès veut en finir avec le régime ». Puisque juste après, les trois ministres militaires de la Marine, de l'Armée de l'Air et de l'Armée de Terre ont émis une note qui ne démentait pas ce qu'a dit Inès. Généralement, les tortures étaient démenties. Non, c'est du terrorisme, c'est du mensonge. Dans le cas d'Inès, comme il y avait tout, numéro d'identité, code postal, il ne leur restait plus que cet argument de l'aspect revanchard. Et cela perdure jusqu'à aujourd'hui. C'est épouvantable. Je suis donc très honoré d'avoir eu sa confiance puisque mon cousin est mort dans cette maison de Petrópolis. En 1974, peu de temps après avoir vécu tout ça, elle avait déjà dénoncé à l'étranger la mort de mon cousin. Donc réellement, comme l'a dit Célina, Inès, vous êtes notre héroïne. Vous avez vaincu, nous avons vaincu. Merci beaucoup.
Quand Inès est sortie, elle est allée à Rio de Janeiro. Elle a localisé la maison de la mort et elle a localisé le docteur Carneiro qui l'avait examinée dans cette maison.
No consultório como o Amilcar Lobo que ele realmente é.
Elle l'a dénoncé à son cabinet sous sa véritable identité. Amilcar Lobo.
No consultório do Amilcar Lobo.
J'ai vu le reportage qui montre Inès rentrant dans le cabinet d'Amilcar Lobo. La figure de Némésis m'est venue à l'esprit. La déesse grecque émissaire de la justice, du châtiment et de la vengeance. Donc Inès, ton histoire est héroïque. Et tu n'as plus rien à craindre. Ta mission est accomplie, tu as vaincu.
Inès Étienne Roméou, seule survivante de la maison de la mort, a reconnu les lieux et a reconnu le docteur Carneiro, dont la véritable identité est Amilcar Lobo, c'est le fameux médecin de cette maison de la mort, cette maison de Petrópolis. Angelica Müller, quel était son rôle ?
Les rôles d'Amilcar Lobo, mais de tous les médecins qui ont participé, c'était très important. Hein. D'un côté, ils étaient dans les centres clandestins ou même dans des installations militaires pour aider les tortionnaires. Ils rentraient pour dire, voilà, ces sujets-là, ils résistent plus. Il peut continuer la torture, voilà, arrêter parce qu'il peut plus, il va mourir. Donc ça, c'est un côté. Un autre très important, le rôle des hôpitaux, des forces armées aussi, qui fait plutôt les dossiers des morts. Les rôles des médecins, c'était très important. Ils ont signé des fausses attestations des morts en disant des choses qui c'était pas la vérité du tout. Hein. Et ça, la CNV pouvait comprouver avec les photos des corps, par exemple.
Alors parlons des tortionnaires, hein, parce que le rôle de la CNV c'est aussi d'entendre les tortionnaires. Alors c'était très compliqué de les faire témoigner, Angelica Müller. Quelles difficultés la commission a-t-elle rencontrées ?
Comme commission d'État, toutes les personnes qui ont reçu l'invitation, elles étaient obligées d'y aller jusqu'à la commission de la vérité à cause de la police fédérale. Par contre, ils avaient les droits de pas parler. Et donc, ça passait beaucoup avec les militaires. Ils étaient obligés à aller à la CNV avec son avocat et qui simplement ont rien parlé ou ont dit que c'était pas du tout la vérité. Il y a eu quelques-unes qui ont vraiment parlé, c'est cas des Maliens, qui s'était plus connu, qui a parlé en paix de l'extorture, de la torture dans les centres militaires.
Angelica Müller, qui était justement Paolo Maliaes?
C'était un militaire qui a travaillé principalement à Rio de Janeiro, dans les DOI-COD, qui c'est le département détachement des opérations et informations. Il avait des rôles importants pour organiser un peu la torture et faire les plannings des arrestations des subversives.
Quanto se torturou?
É difícil dizer a quantidade. Foi a quantidade razoável.
La voix de Paolo Maliaes pendant son audition à la CNV, le colonel Paolo Maliaes donne des détails. Il reconnaît les détentions arbitraires, il reconnaît avoir torturé à mort, il reconnaît avoir fait disparaître les corps après les avoir mutilés. Angelica Müller.
Exactement. Donc c'était un des peu militaires qui ont vraiment parlé ouvertement sur les systèmes et sur la question de la torture, parce que la plupart dit que non, n'existait pas, ou si existait, c'était des cas isolés.
Alors Maliaes est le premier à reconnaître ses responsabilités et aussi à exprimer ses peurs. Et d'ailleurs, il a été assassiné en avril 2014.
Oui, c'était bien trois semaines après son témoignage à la CNV. La police de Rio dit que c'est un crime des droits communs. Mais ça reste quand même un doute parce que dans le cadre de la Commission de la vérité, c'était vraiment les militaires qui a plus exprimé qu'est-ce qui se passait dans les régimes.
Donc il dérange beaucoup, évidemment, l'institution
oui,
même, hein,
c'est,
militaire.
C'est vrai qu'il y avait d'autres militaires comme Claudio Guerra qui a quelques années à lancer un livre en montrant un peu ces cas de torture et tout. Mais officiellement, pour l'organisme d'État, Paolo Maliaes, c'était vraiment les grosses témoignages.
Alors nous avons entendu précédemment le J'accuse de Dulce Pandolfi. Je vous propose maintenant de retrouver un autre moment fort de son témoignage devant la CNV. Dulce Pandolfi a servi de cobaye pour la formation des tortionnaires sous la dictature brésilienne en août 1970.
Cette nuit-là, le 20 août 1970, quand je suis entré dans la caserne de la police de l'armée de terre située au numéro 425 de la rue Barão de Mesquita, dans le quartier de Tijuca, à Rio de Janeiro, j'ai entendu une phrase qui aujourd'hui encore résonne fortement dans mes oreilles. Je cite, « Ici, il n'existe ni Dieu, ni patrie, ni famille. Il n'existe que nous et toi. » C'était dans cette caserne que fonctionnait le DOI-COD, la délégation d'opérations d'information, centre d'opérations de défense interne, une jonction de tortionnaires de l'ère civile et militaire. Contrairement à ce que beaucoup disent, cet endroit n'était pas une cave de la dictature, un lieu clandestin. Bien qu'il n'ait existé ni Dieu, ni patrie, ni famille, j'étais dans une dépendance officielle de l'armée brésilienne. Une institution qui fonctionnait à pleine vapeur, avec tous ses rituels, ses symboles, ses hymnes, sa routine. J'y suis resté presque trois mois. Le 20 octobre, deux mois après mon emprisonnement, j'ai servi de cobaye pour une classe de torture. Le professeur, devant ses élèves, faisait des démonstrations avec mon corps. C'était une espèce de classe pratique, avec des astuces théoriques. Pendant que je recevais des décharges électriques accrochées au fameux pão de arara, le perchoir à perroquet, j'ai entendu le professeur dire « Cette technique est la plus efficace. » Je pense que le professeur avait raison. Quand j'ai commencé à me sentir très mal, la classe a été interrompue et j'ai été emmené en cellule. Quelques minutes après, de nombreux officiers sont rentrés dans la cellule et ont demandé au médecin de prendre ma tension. Les filles criaient, imploraient, tentaient en vain d'empêcher que la classe continue. La réponse du médecin Amilcar Lobo, devant les tortionnaires et devant nous toutes, a été...
Ela ainda aguenta. Fecha aspas.
Elle peut encore supporter.
E de fato a aula continuou.
Et de fait, la classe a continué.
A segunda parte da aula foi num pátio.
La seconde partie de la classe eut lieu dans une cour intérieure.
Faziam juramento à
bandeira. La même que celle où les soldats tous les jours juraient devant le drapeau et chantaient l'hymne national.
Com tal do capuz preto na cabeça.
Là, je suis resté un bon moment attaché à un poteau avec la cagoule noire sur la tête et ils ont fait un peu de tout.
Que como eu era irrecuperável.
À la fin, ils ont prévenu que comme j'étais irrécupérable.
Eles iriam me matar.
Ils allaient me tuer.
Que eu ia virar um presunto.
Que j'allais devenir un jambon, un terme utilisé à l'époque par les escadrons de la mort.
Ali simularam meu fuzilamento.
Et là, ils ont simulé de me fusiller.
Eu acuso o major da polícia militar, Riscala Corbage.
J'accuse le major de la police militaire, Riscala Corbage. Connu comme le docteur Najib, qui, ayant compris que le sérum de vérité n'avait pas produit l'effet escompté, m'a emmené dans une petite salle, m'a allongé sur le sol et monté sur mon dos, a commencé à me piétiner et à me battre avec une matraque, en criant qu'il allait me frapper à mort.
O seu descontrole foi tamanho. E os seus gritos tão estridentes.
Son manque de contrôle était tel et ses cris si stridents que les autres tortionnaires sont rentrés dans la salle et l'ont retiré de mon corps.
Le témoignage pour l'histoire de Dulce Pandolfi lors de son audition à la Commission nationale de la vérité au Brésil. Elle a survécu aux cours de torture donnés sur son corps. Elle était alors étudiante, engagée dans le mouvement de l'ALN, l'Action de Libération Nationale contre la dictature militaire. Angélica Müller, le rapport final remis à la présidente Dilma Rousseff en décembre 2014 est constitué de plus de 4000 pages. Alors vous donnez les noms de 300 fonctionnaires et personnes au service du gouvernement impliquées dans des violations graves des droits de l'homme. Vous montrez également la diversité des secteurs touchés par la répression et de quelle façon ils ont résisté, y compris en utilisant la lutte armée. Et enfin, vous établissez la liste des victimes, des morts et disparus. À quoi sert ce rapport voulu par le Brésil et dont le Brésil a fait si peu de publicité ?
Voilà, c'est vrai, je pense que c'est un peu la culture politique du pays. C'est vrai qu'après la création de la CNV, jamais autant des gens de la société brésilienne a écouté, il a compris qu'il s'est passé en dictature et que dans la dictature, il y avait des tortures. Parce qu'il y avait plusieurs des personnes qui croyaient pas que ça existait. Donc, la presse a joué un rôle spécial aussi dans le sens de faire la divulgation des beaucoup, beaucoup des événements de la commission. Mais c'est aussi la vérité qui, depuis décembre 2014, on a passé déjà quelques mois et rien s'est passé. Il y a au fond du rapport en liste des recommandations que les membres de la CNV ont fait, dans ces cas la présidente de la République, mais de créer des organismes de surveillance pour qu'ils puissent mettre en place ces recommandations-là. Et rien encore s'est passé. Et ça, c'est que Bruno a parlé, c'est toujours une question des politiques plutôt que juridiques, mais c'est un peu la culture politique du pays qui s'est qui est la base de la société qui fait changer les choses. C'est plutôt des négociations en haut niveau, on va dire, entre les grands personnages de la politique.
Et où d'anciens tortionnaires, justement, ou d'anciens membres de la dictature sont encore à des postes de responsabilité importants au Brésil.
Sans doute.
Bruno Gropo, donc 30 ans après le Brésil, est-il toujours dans un pacte du silence ? Est-ce qu'on est encore dans une transition démocratique ?
Je dirais pas un pacte des silences, parce que effectivement, là, et en particulier grâce au travail de la commission, on connaît énormément de choses sur ce qui s'est passé. Et déjà en 95, avec la loi dite des disparus, la création de la commission des morts et disparus politiques, l'État avait reconnu sa responsabilité dans ce cas-là pour ces morts et disparus. Maintenant, il reconnaît sa responsabilité pour pour les tortures, etc. Déjà, la commission dite d'amnistie créée en 2002 avait procédé à une politique de réparation qui impliquait la reconnaissance de la responsabilité de l'État. Mais en même temps, et en fin de compte, jusqu'ici, officiellement, la politique d'impunité n'a pas été remise en cause et c'est le seul cas, effectivement, parmi les anciennes dictatures militaires d'Amérique latine où on a garanti aux responsables des crimes contre l'humanité une impunité absolue.
Merci à tous les deux, Bruno Gruppo et Angelika Müller. Merci à la CNV, à la Commission nationale de la vérité, aux archives nationales brésiliennes pour nous avoir donné accès à toutes ces archives. Et je précise que l'ensemble des témoignages que vous avez entendus ont été spécialement traduits par Mélanie Toulouate. Retrouvez tous les liens des audiences du président Lula, de Dulce Pandolfi, de Inès Etienne Romeu dans leur intégralité sur le site rfi.fr émission La Marche du Monde. J'ajoute que cette émission a été conçue avec le Centre d'Histoire Sociale du CNRS que je remercie vivement et plus particulièrement Jeanne Monjoulet.
Atordoado, eu permaneço atento na arquibancada para qualquer momento.
Écrivez-nous sur notre Facebook où je vous propose en bonus une vidéo du film de Jeanne Monjoulet. Podcastez cette émission encore et toujours réalisée par Cécile Pompeani. C'est la vôtre. De vinho tinto de sangue.